raconte. Christophe Ondelatte.
Un tueur en série aujourd'hui qui a sévi en 2011 et 2012 dans le département de l'Essonne au sud de Paris. Il a tué 4 personnes. Je ne vous donne pas son nom puisque nous allons comme toujours mettre nos pas dans ceux de l'enquête. Mais je vous préviens tout de suite, hein, grosse frustration à la fin de l'histoire puisqu'on n'a jamais su, on ne saura jamais pourquoi il a tué ces 4 personnes-là. C'est à peu près d'ailleurs toujours le cas chez les tueurs en série. D'où, sans doute, une grosse frustration chez les familles des victimes. Bonjour maître Elisabeth Auerbacher.
Bonjour.
Vous avez été dans cette affaire l'avocate de la famille de la première victime, Nathalie Davids, dont je vais raconter le destin dans un instant. Oui. On se reparle après l'histoire.
On se reparle après l'histoire.
J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudoir, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le dimanche 27 novembre 2011, un peu après 17h, à Juvisy-sur-Orge, au sud de Paris, Marcello traverse le parking souterrain de son immeuble. Et il tombe sur un corps, couché, près d'une voiture, couvert de sang, une femme. Il la reconnaît tout de suite, c'est sa voisine. Nathalie ? Nathalie ! Elle a été criblée de balles. Mais elle est vivante. Les secours arrivent, mais trop tard. Nathalie Davids est déclarée morte à 18h50. Elle avait 35 ans. Et on compte les douilles autour de son corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ne lui a laissé aucune chance. Aucun des habitants de l'immeuble n'a entendu les coups de feu. Mais 4 personnes racontent que dans le parking, cet après-midi-là, elles ont vu un motard. J'étais en train de bricoler ma voiture. Il était là, avec un casque intégral. Je l'ai salué, mais il m'a pas répondu. Il a démarré et il est sorti. Et puis 20 minutes plus tard, quand j'ai quitté le parking, je suis retombé sur lui au premier sous-sol. Moteur arrêté. Il avait toujours son casque sur la tête. Une femme aussi a vu le motard vers 16h. Il était tout en noir. Je me suis demandé ce qu'il faisait là. Il m'a fait peur, hein. Vous pouvez nous le décrire ? Ah ben je peux pas, il avait son casque. Un troisième témoin le voit vers 16h45. Oh ben je dirais dans les 1m80. Pas baraqué, hein. Plutôt mince. Le dernier témoin le voit juste après. Et il a noté la marque de sa moto. Ah c'était une Suzuki. Vous en êtes sûr ? Ah ouais, certain. Les policiers analysent la scène de crime. Nathalie Davids a garé sa voiture à l'emplacement 125. Et on retrouve son corps à une dizaine de mètres devant l'emplacement 96. On peut donc imaginer le scénario suivant. Elle descend de sa voiture. Le type lui tire dessus une fois. Elle avance encore. Il tire encore. Elle s'effondre. Et il l'achève d'une balle dans la tête à bout touchant. Il y a des traces de poudre sur son visage. Le type avait un sacré sang-froid. D'après le balisticien, l'arme serait un pistolet automatique de calibre 7,65, un Browning. Alors qui était cette femme qu'on est venu exécuter de sang-froid dans son parking ? Nathalie Davids était biologiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Elle habitait la résidence depuis 2 ans. Chez elle, les policiers trouvent son journal intime. Intéressant. Très intéressant, parce qu'elle y parle d'un homme avec lequel elle a eu une relation, disons, complexe. Un type qui, d'après ce qu'elle décrit, serait un mafieux sicilien, qui l'a harcelé au téléphone, et qui aurait un jour menacé de mettre de la drogue dans son casier à l'hôpital, pour la compromettre. Bingo ! Les policiers interrogent ses proches. Cet homme, vous le connaissez ? Ah ben oui ! C'est Michel Courtois ! Ils étaient ensemble depuis 2 ans. Un gars qui doit avoir dans les 45 ans. C'était houleux, comme relation. Une amie raconte qu'elle avait décidé de rompre avec lui. C'est plus qu'une piste, ça. 3 jours après le meurtre, le 1er décembre à 6h du matin, la BRI débarque chez Michel Courtois.
Police ! Ouvrez !
Finalement, ils enfoncent la porte et ils le trouvent au plumard dans sa piole.
Bouge pas, connard !
Tu sais pourquoi on est là ?
Ben non, je sais pas.
On t'arrête pour le meurtre de Nathalie David.
Elle est morte, Nathalie ?
Les policiers fouillent son portefeuille. Ils tombent sur une médaille.
C'est quoi, ça ?
Ben, c'est la Madeleine des motards.
Je suis passionné de moto.
Ha ! Décidément, il a tout contre lui, ce Courtois. Il est donc placé en garde à vue à la PJ de Versailles. Et d'entrée, il nie.
Enfin, j'avais aucune raison d'en vouloir à Nathalie. J'étais amoureux d'elle.
Et il en reste là pendant les 40 premières heures de sa garde à vue. Une garde à vue, vous le savez, ça dure 48 heures. Il lui reste 8 heures pour avouer. La seule chose qu'il veut bien reconnaître, c'est qu'il a raconté des salades à Nathalie David. Il n'est pas du tout un mafieux sicilien. Il est picard.
Moi, je me suis créé un personnage, c'est tout.
Qu'avez-vous fait dans la journée du 27 novembre ?
Bah, la nuit précédente, j'ai dormi chez Nathalie. Puis vers midi, elle m'a ramené à la gare RER de Juvisy. Puis je suis rentré chez moi, quoi. Et après ?
Après, il dit que vers midi et demi, il a rejoint des copains dans un bar et qu'il est rentré chez lui vers 14h30 et qu'ensuite, il a fait une sieste jusqu'à 17h30, 18h. Il pionçait à l'heure du meurtre. Chez lui, les flics ont saisi des vestes et un sac. Et dessus, le labo a détecté des résidus de poudre.
Bah dans mon travail, j'utilise des produits chimiques. C'est peut-être de là que ça vient, non ?
La fin de la garde à vue approche. Et d'un coup...
J'ai fait ça par amour. C'est par amour que j'ai tiré sur elle.
Eh ben voilà, il suffisait d'insister un peu. Et après, il donne des détails. Il dit qu'il est rentré dans le parking derrière une voiture et qu'il a tué Nathalie avec une arme achetée dans une cité près de chez lui, dans les Hauts-de-Seine. La moto n'est pas à lui, mais il la prend quand il veut. Voilà. Voilà une affaire rondement menée. En moins de 48 heures, les policiers ont arrêté l'assassin. La juge d'instruction le met en examen pour assassinat et Michel Courtois file à Fleury-Mérogis. Sauf que ça se complique. Le 13 décembre, lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge, Michel Courtois se rétracte.
Ils m'ont extorqué les aveux, madame le juge. J'avais pas mangé, j'avais pas dormi. J'ai dit ce qu'ils voulaient qu'ils disent, et puis c'est tout.
Les policiers lui auraient retourné le cerveau.
Pourquoi pas, hein ? C'est déjà arrivé.
Sauf que l'idiot ne dépose pas de demande de remise en liberté. Et la juge se dit, c'est bizarre. Et il n'y a pas que ça qui est bizarre. On a tout de même trouvé des traces de poudre sur sa veste et sur son sac. Donc il reste en prison. Trois mois plus tard, le mercredi 22 février 2012, dans le même parking, du même immeuble, un homme est abattu, à quelques mètres de l'endroit où Nathalie David a été elle-même tuée. Jean-Yves Bonnerue, 52 ans, lui aussi habitant de la résidence, il a pris une balle dans la tête. Il meurt après 6 jours de coma. Et là, on ne peut pas accuser Michel Courtois, puisqu'il est en taule. En revanche, il y a beaucoup de similitudes avec le premier meurtre. Jean-Yves Bonnerue a été abattu d'une seule balle. Mais c'est du 7,65 de marque Géco, comme pour Nathalie. Et des témoins, là encore, ont vu un motard. La propre femme de Jean-Yves Bonnerue raconte qu'il rentre des courses vers 15h avec son mari et qu'il voit un type à moto. Elle dit que Jean-Yves, qui est amateur de moto, le salue, que l'autre ne répond pas. Et un peu plus tard, Jean-Yves ressort pour acheter du pain. Et c'est à ce moment-là qu'il est tué. Une autre habitante de l'immeuble a remarqué le motard.
Il s'est approché de moi. Puis il a fait demi-tour. Mais moi, je l'ai reconnu, hein. J'ai une de ses frousses. C'est le même que j'ai vu le jour du meurtre de Nathalie.
Si elle dit vrai, ça n'était donc pas Michel Courtois. Et elle dit vrai puisque le rapport de la balistique vient de tomber. C'est la même arme, dans les deux meurtres. Bizarre. Je sais à quoi vous pensez. Et rassurez-vous, la juge se pose la même question que vous. Est-ce que depuis sa prison, Michel Courtois a pu planifier le second meurtre, filer son arme, sa moto, à un copain, pour qu'il aille en quelque sorte l'innocenter? Ça expliquerait la différence de mode opératoire. 6 balles d'un côté, une seule de l'autre. Ça devient une enquête costaud. Une deuxième juge d'instruction est nommée pour épauler la première. À partir de maintenant, elles enquêtent à deux. Et elles envoient les policiers interroger les amis de Michel Courtois, à leur QG, le bistrot des Bruyères, à Bois-Colombes. Michel, à moto? Ça m'étonnerait, il sait même pas faire de scooter. C'est lui qui nous a dit qu'il utilisait une moto. Oh ben Michel, vous savez, il est un peu mytho. Il est comme ça. Voyons ce que dit le relevé du portable de Courtois. À 14h39, son téléphone borne chez lui à Bois-Colombes. Et il borne à nouveau chez lui 3 heures plus tard, à 17h40. Nathalie David a été tuée dans le parking entre 17h et 17h15. Ça l'innocente. Il ne peut pas être à 17h, 17h15 à Juvisy-sur-Orge au sud de Paris et à 17h40 à Bois-Colombes au nord-ouest de la capitale. Ou alors c'est Cyril Neveu, hein, c'est le roi de la moto. Au cas où, les policiers vérifient si c'est possible. Un motard de la police fait 2 fois le trajet dans les mêmes conditions de circulation. Il met 26 minutes sans respecter le code de la route et 30 minutes en s'arrêtant à tous les feux, à tous les stops et en respectant les limitations de vitesse. Donc c'est faisable. Sauf que, comme le fait remarquer l'avocat de Michel Courtois, on s'improvise pas pilote de grosse cylindrée du jour au lendemain. Et c'est vrai que personne n'a jamais vu Courtois au guidon d'un deux-roues. Personne! Et pourtant, il reste en tôle. La juge croit à cette histoire de meurtre commandité depuis sa prison. Et en prison, Michel Courtois se lance dans une grève de la faim. Elle dure 30 jours. Il perd 11 kilos. 3 semaines après le deuxième meurtre, le 17 mars, à Ris-Orangis, à 6 kilomètres de Juvisy, Marcel Bruneteau, 81 ans, est retrouvé inconscient dans le hall de sa cité HLM. Au début, on pense qu'il a fait un malaise, mais non. Il a reçu une balle en pleine tête, et c'est du 7,65. On a retrouvé une douille de marque Gecko. Et 2 jours avant, une voisine a vu un homme avec un casque de moto sur la tête dans le hall de l'immeuble. Et ça n'est pas non plus Michel Courtois. Et c'est pas tout. Le 5 avril 2012, 4e victime. Dans la même zone géographique, mais cette fois à Grigny. Vers 16h, Nadia Boudjemia, 48 ans, rentre chez elle. Elle est abattue de 3 balles. Une exécution froide, à bout portant.
Dans ces petits immeubles proches de la cité de la Grande Borne, on avait l'habitude de croiser Nadia dans les conseils de quartier. Une femme discrète qui élevait seule son fils de 18 ans et qui travaillait comme agent d'accueil à Orly. Elle n'a pas le profil d'une victime de règlement de compte, répètent les voisins, stupéfaits par la violence de cette exécution.
Tout le monde est choqué. On est tous restés bouche bée. On s'est dit, c'est pas possible. Pourquoi elle?
Une voisine a vu un motard casqué prendre la fuite. Calme. Son compagnon raconte que la veille, il a vu lui aussi une moto bleue et blanche dans le coin. Et cette moto, pour une fois, des jeunes du quartier sont capables de la décrire précisément. C'est une Suzuki, modèle GSX-R 1000. Quant à l'arme, c'est la même, calibre, 7,65. Disons les choses clairement, c'est un tueur en série. La police tente de relier ces meurtres les uns aux autres, il n'y a pas de logique. Le type semble tué au hasard, n'importe où, n'importe qui, n'importe quand. Et Michel Courtois, qui est toujours en prison, ne peut pas être ce tueur. Et pourtant, il reste en détention. Le 6 avril, le signalement de la moto Suzuki est diffusé à tous les services de police et dans la presse.
Sur la Nationale 7, un panneau « Bienvenue à Grigny ». Et à peine 20 mètres plus loin, contrôle routier, 4 motards en uniforme, très attentifs à tout ce qui a deux roues. Gilles vient de leur donner ses papiers, sa moto ressemble un peu trop à celle que recherchent les policiers.
En plus, il est aux couleurs bleu et blanc comme le Suzuki qu'ils recherchent. Donc s'ils sont pas trop branchés de roues, à tous les coups, je me fais serrer. Je m'arrête et puis je leur donne mes papiers, qu'est-ce que je vais faire d'autre?
Un fourgon siglé police nationale près d'un carrefour, une voiture banalisée derrière un rond-point. La présence policière est tantôt discrète, tantôt visible. D'ailleurs, Samia n'hésite pas à venir les voir à chaque fois qu'elle remarque un détail suspect.
Il y a eu deux motos suspectes qui sont passées à Grigny, donc on le signale. On essaye de les aider au maximum pour retrouver ces individus. On est vraiment dans la peur. Je rentre dans mon hall, je vérifie dans tout le hall s'il n'y a personne. Ça devient invivable.
Les policiers font le tour des associations de motards. Ils visionnent les bandes de vidéosurveillance de toutes les stations-service dans un périmètre de 70 km à la ronde. Et surtout, ils piochent dans le fichier des cartes grises et ils sortent la liste de tous les propriétaires de Suzuki GSX-R 1000. Et dans cette liste, un nom ressort. Tout simplement parce que l'adresse qui est indiquée sur sa carte grise ne correspond pas à l'adresse de son domicile. Le type s'appelle Yoni Palmier. Il est antillais et il habite à Draveil, dans l'Essonne. Les policiers vont chez lui. Démarche de routine. Il tombe sur le gardien. Yoni Palmier ? C'est l'original de la résidence, lui. Parfois, il fait du vélo avec un masque de plongée sur la tête, figurez-vous. Et vous l'avez déjà vu au volant de sa moto ? Ah non, je pense pas. Il a une moto, Yoni Palmier? Il sonne chez lui. Yoni Palmier leur ouvre. Et il va fermer son ordinateur. Il a l'air stressé. Il se frotte les mains. Il tourne en rond. Bizarre, suspect, l'air pas net. Alors de retour à la PJ, les policiers disent au patron. Il est pas clair, ce type. Alors une équipe de flics le prend en filature. Et il le voit aller de son appartement à un box. Puis à un autre box. Il se déplace continuellement, en voiturette. Il en a deux, figurez-vous. Là-dessus, un garagiste appelle le commissariat.
Allô ? Dites-moi, je sais que vous cherchez un homme à moto avec une Suzuki. Figurez-vous que j'ai reçu la visite d'un homme avec une voiturette qui voulait que je lui pose une attache pour tracter sa moto. Et la moto, c'est une Suzuki GSX-R, 1000.
Ah ah ! Très intéressant. Il vous a dit comment il s'appelait, ce monsieur ?
Ah ben oui, il a laissé un chèque, en bois d'ailleurs. Yoni Palmier.
Les policiers vont voir le garagiste, il lui présente une photo de Palmier. Ah ben oui, c'est lui. Ouais, je le reconnais. Autre chose que vous pourriez nous dire sur lui ? Ouais, il m'a demandé comment il pouvait se procurer une arme. Les flics font le tour des armuriers de la région. Plusieurs d'entre eux ont reçu la visite de Yoni Palmier. Oh ben c'est un drôle de type, hein. Quand il est rentré dans le magasin, on voyait bien qu'il cherchait à éviter les caméras. Il voulait acheter une arme, mais il n'avait pas d'autorisation. Mais il m'a acheté un masque à gaz et des bombes lacrymo. C'est bon, c'est lui. Et donc le 14 avril à 15h, les hommes de la BRI lui tombent dessus alors qu'il sort de chez lui. Il porte une sacoche. Au moment où les policiers l'ouvrent, Palmier se met à paniquer. Et pourtant, à l'intérieur de la sacoche, il n'y a qu'une toute petite voiture. En revanche, dans sa voiturette, il trouve un revolver de type bulldog, une vieille pétoire de la fin du 19e. Une arme, donc. Mais qui n'a rien à voir avec le 765 qui a tué 4 fois. Et donc, ils enchaînent avec la perquisition de son appartement, en espérant trouver l'arme du crime. Un bordel, vous ne pouvez pas imaginer. Un souk intégral. Mais pas d'armes. Ensuite, direction l'un des box repérés au cours de la filature. Hé hé ! À l'intérieur, il y a une moto Suzuki GSX-R 1000. Elle a été modifiée, mais c'est exactement le modèle recherché. Mais toujours pas l'arme du crime. Et ensuite, direction la PJ pour tenter de le faire craquer. Vu le profil un peu perché du personnage, les policiers se font conseiller par des psychologues. Et un des flics réussit à gagner sa confiance. C'est comme ça qu'il apprend que ce Yoni Palmier, qui a 33 ans, a une relation compliquée avec sa maman. Qu'il a été traumatisé par le suicide de sa sœur, qui s'est jetée par la fenêtre. Et que depuis tout petit, il a manqué d'affection de son papa. Qu'il n'a pas non plus de petite amie et semble vivre dans un désert sexuel et affectif. Ok. Et les meurtres alors? Dès qu'on lui en parle, l'autre prend la tangente.
« Je peux fumer une cigarette ?»
Ou alors
« Je voudrais aller aux toilettes. »
Il cherche à gagner du temps. Après 24 heures de garde à vue, Yoni Palmier n'a rien lâché. En fin d'après-midi, les policiers l'emmènent dans un immeuble où il gare ses voiturettes et où, semble-t-il, sa maman a vécu il y a une dizaine d'années. Et là, dans une poubelle, il tombe sur une douille de 7,65 de marque Géco, qu'ils envoient illico au laboratoire de balistique. Et là, il est cuit, parce que dessus, il y a les mêmes caractéristiques que dans les quatre meurtres. Et donc là, les flics se fâchent. Ils l'assomment de questions. Et à un moment...
Bah, la meuf, elle se pointe. Je lui tire dessus. Combien de fois, je sais plus, mais... Plusieurs fois.
Ok, ça c'est le premier meurtre. Les trois autres?
Mais les autres, il n'y en a pas d'autres.
Il a raconté le meurtre de Nathalie Davids. Les flics en sont sûrs. Il a avoué un crime sur quatre. L'interrogatoire est suspendu quelques heures. Il reprend le lendemain matin.
Monsieur Palmier,
à quoi est-ce qu'elles correspondent là les clés de votre trousseau? Cette clé là, c'est quoi? Ça ouvre quoi?
Ben ça ouvre un autre box que j'ai.
Un autre box? Vous voulez bien nous y conduire?
Bah ben ouais.
Sur ces indications, les policiers prennent la direction de Draveil. Et dans le box, ils trouvent des gilets pare-balles, du matériel médical, dans une mallette fermée par un cadenas, un pain d'explosif, et surtout une arbalète, et deux pistolets 7,65.
Mais putain, Palmier! Mais qu'est-ce que tu préparais?
Pour réponse, les policiers n'ont droit qu'à un grand sourire. Fin de la garde à vue, Yoni Palmier est déféré devant la juge d'instruction. Elle le met en examen pour les quatre assassinats. Mais elle n'en tire rien de plus. Il est là dans son cabinet, il est affalé dans son fauteuil, l'impression de ne pas être concerné. À part ça, vous vous dites peut-être que puisqu'on a arrêté Yoni Palmier, on a relâché Michel Courtois. Oh ben non, il est toujours en prison, au prétexte qu'on a retrouvé sur ses vêtements et sur son sac des résidus de poudre. Il va falloir encore longtemps pour comprendre que ces traces sont le fait de produits qu'il manipule dans son métier dans le bâtiment. Michel Courtois est la cinquième victime de cette affaire. Alors, qui est ce zigoto, Yoni Palmier?
Ce matin, sur Europe 1, un témoignage exclusif qui permet de mieux cerner sa personnalité. Nous avons rencontré son voisin et meilleur ami.
Écoutez, moi, je l'ai connu depuis 13 ans maintenant. Et puis, c'est quelqu'un de très gentil, très solitaire, sans travail. Donc, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui était, entre guillemets, un peu perdu. C'est un marginal hein, de la société, faut bien le dire. Je crois qu'il a travaillé au Black pendant quelques mois. Et puis le reste, je crois qu'il faisait des petites magouilles. Ouais. Il s'en sortait, il allait dans les quartiers, il magouillait, il faisait des petits business à droite et à gauche. Mais très gentil en tout cas, d'apparence très très gentil. Ouais.
Ces derniers temps, vous aviez noté quelque chose, un changement dans son caractère, dans son attitude, ou c'était...
Bah non, justement, c'était le même quoi. On avait les mêmes rapports. Au contraire, ce qui est le plus surprenant, c'est que je le voyais très 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 souvent ces derniers temps, plus qu'avant. Hein. Mais sinon, au niveau de son comportement, il avait le même. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas senti d'énervement. Et surtout que ouais, je l'ai vu le lundi, mardi, mercredi, jeudi, avant le 5 avril, date du dernier meurtre. On s'est vu tous les jours. Il y avait vraiment, enfin moi je le sentis. Et comme je disais aux fonctionnaires de police, je dis attendez, il était vraiment clean de chez clean et bien dans sa tête. Après voilà, je sais, ce qui était schizophrène ou pas, je sais pas, mais là c'est super étonnant.
Tous ceux qui l'ont connu disent qu'il est marginal depuis tout petit. Il n'avait pas vraiment de copains. À un moment, il se serait accoquiné avec un groupe mystique. Il aurait participé à des cérémonies de purification. Et puis un jour, il faisait un régime. Et le lendemain, il faisait de la musculation intensive. Il avait des tocs aussi. Il se lavait les mains tout le temps. Et puis il ne supportait pas d'avaler sa salive. Alors il crachait partout. Et pendant son interrogatoire, il a fallu lui fournir des kilos de Kleenex pour qu'il crache en permanence. Étrange bonhomme, qui a déjà été condamné plusieurs fois pour des violences, des menaces de mort, des ports d'armes sans permis. Une fois, il a pris 18 mois dont 6 mois ferme pour avoir poignardé sa mère de 4 coups de couteau. Et il est ressorti, et il a repris sa vie de déjanté, de toqué, de cinglé, avec ses 4 boxes, ses 2 appartements, ses 2 voiturettes, et cette moto que personne ne lui a jamais vu conduire. Ne cherchez rien de logique dans tout ça. Il n'y a rien de logique dans cette affaire. En fin d'instruction, Palmier, qui n'a toujours rien avoué, tente une parade assez misérable. Il s'envoie une lettre à lui-même, signée d'un certain Niorca. Une lettre qui le disculpe. « J'ai manipulé Yoni, je l'ai obligé à me garder des armes, ainsi que le 765 qui a servi aux assassinats. Nous étions 3 à procéder au crime, dont moi. Mais on s'aperçoit que l'enveloppe est la même que celle qu'il a dans sa cellule et que le stylo qui a servi à écrire cette lettre est à lui. Ce type est cinglé, mais pas au point d'être déclaré irresponsable pénalement. Et donc il sera jugé. » Et donc, son procès s'ouvre le 31 mars 2015 devant la cour d'assises d'Évry. Procès auquel il assiste en spectateur. Tout le monde attend des aveux, elles peuvent toujours courir. Il est innocent. La justice s'acharne contre lui. Et pourtant, les familles des 4 victimes sont en attente de réponses. Comment les a-t-il choisis? Pourquoi les a-t-il choisis? Les a-t-il suivis? Pourquoi elles?
Il est temps de parler, monsieur Palmier. Vous devez vous expliquer. Oh, vous me saoulez grave, hein ?
En termes d'aveu, on va s'accrocher à une lettre que Palmier a écrite juste avant le procès à l'expert psychiatre. Quand j'ai vu la victime à terre, j'ai ressenti un petit soulagement. Évidemment, on fait défiler les experts psy, psychiatres et psychologues. Il y a tant d'incohérences dans toute cette affaire qu'on est prêt à admettre qu'il est malade. Eh ben non. Les psys sont formels. Il n'est pas schizophrène. Il a des troubles de la personnalité. Il est borderline, comme on dit. Presque fou. Mais pas fou. Après 2 semaines de procès, l'avocat général requiert la peine maximum. Soit la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté, plus une mesure de rétention de sûreté qui pourrait le maintenir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et elle obtient gain de cause. Palmier prend le max, mais il fait appel. Le deuxième procès s'ouvre devant la cour d'assises de Paris en mars 2017. Et là, changement de programme. D'entrée, Yoni Palmier annonce:
je reconnais tous les faits. Et je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. J'ai agi de manière disproportionnée à des agressions. J'ai pris des victimes au hasard.
Mensonge. Il ne dira rien de plus. L'avocat général demande la même peine, maximum, mais le jury se montre légèrement plus clément qu'en première instance.
Yoni Palmier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté, mais sans rétention de sûreté. Quant au pauvre Michel Courtois, il aura passé au total 8 mois et demi en prison. Pour rien. Il a fini par être relâché et blanchi, mais il est ressorti de prison brisé. Il n'a jamais retrouvé de travail. Il a été contraint de vivre au RSA. Et la justice, généreusement, lui a accordé 18 000 euros de préjudice moral. Et voilà, pour débriefer cette histoire, j'ai demandé à Maître Elisabeth Auerbacher d'être là. Vous avez été dans ce dossier, Maître, l'avocate de la famille de Nathalie David. Vous avez donc suivi l'affaire du début jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Assisté aux deux procès. Quelle frustration tout de même cette histoire. Enfin, pour moi,
oui,
je le reconnais, pour vos clients, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne savent toujours pas pourquoi il a tué Nathalie David.
Palmier dit lui-même que c'est le hasard. Alors, il faut savoir que Palmier louait une place de parking, là où habitait Nathalie David et M. Bonnerue. Donc, c'est le hasard dans le sens où il a pris quelqu'un au hasard pour tirer. Maintenant, pourquoi il a tiré?
C'est Nathalie David, mais ça aurait pu être la voisine d'à côté.
Ça aurait pu être la voisine. Il y a un des témoins, une dame. Il y a deux reprises, elle l'a vue. Pourquoi il ne l'a pas tuée? Elle, on n'en sait rien. Le problème de Palmier, c'est que c'est quelqu'un qui est marginal, qui est en dehors de toute forme de société, qui ne respecte absolument pas, quelle que soit la légalité de quoi que ce soit, qui, à force, naturellement, d'escroquerie, a eu des petits problèmes avec des personnes qui l'ont un peu malmené, mais du coup, il se sent victime, il ne comprend pas que c'est un enchaînement, et c'est une frustration totale pour la famille, et une tristesse incommensurable.
Oui, j'imagine, mais c'est le hasard. Mais à côté de ça, il y a du repérage, c'est-à-dire, on voit qu'il vient toujours la veille. Mais il ne repère pas sa victime, il repère les lieux.
Alors, dans les deux premiers meurtres, il connaît les lieux
puisqu'il a un parking.
Donc, il sait très bien comment ça fonctionne. Sur le troisième meurtre, il le prend au hasard dans un hall. On ne sait pas s'il y a une moto ou pas, a priori, on n'en sait rien. Et sur le troisième, là, il est venu repérer. C'est-à-dire que, alors je vais dire quelque chose de très difficile, mais quelque part, il se professionnalise. C'est-à-dire que au départ, il est au SAR, il prend la plus simple, l'élément le plus simple, c'est-à-dire là où il a un parking, et il tire sur la première personne qu'il voit, pourquoi, comment, parce que, voilà, c'est vrai que l'autre personne qu'il a vue était en voiture, donc peut-être que c'est parce que Nathalie David sortait de sa voiture. Après, il fait le voisin. Trois mois après, il fait le voisin, il va dans la simplicité des lieux qu'il connaît. Après, on a l'impression, et surtout au quatrième meurtre où il repère, la veille, quelqu'un. Hein, on ne sait pas qui, mais eh bien, c'est comme s'il commençait à se professionnaliser dans le meurtre.
Il n'y a pas de composante sexuelle du tout. Parce que la première qu'il tue, c'est Nathalie David, qui a 35 ans. On pourrait se dire que, comme c'est un homme assez frustré sur le plan sexuel, etc., il l'a choisi pour ça. Mais en fait, le suivant est un homme. Puis à un moment donné, il tue un vieux monsieur de 81 ans.
Il n'y a aucun élément qui permette de dire qu'ils ont des profils, soit que des femmes, soit que des hommes de 80 ans. Quoi. Non. Tout est un mélange. Il n'y a pas, au niveau sexuel, alors je pense que lui, il a des graves problèmes sexuels, Palmier, mais ce ne sont pas des meurtres liés à la sexualité. Mmh. C'est vraiment le hasard. L'idée, enfin moi ce que j'ai compris de cet homme, c'est que il a une frustration telle que c'est en tirant que ça lui fait du bien.
Vos clients ont-ils regretté que, à l'issue du procès en appel, le jury n'est pas retenu la rétention de sûreté? Donc, il faut expliquer, parce que c'est un truc qui n'est quasiment jamais appliqué, qui est très récent.
Qui est inapplicable. C'est pour ça qu'on l'enlève.
Qui remonte à Sarkozy, hein, voilà. au mandat de Nicolas Sarkozy. En gros, c'est ce qu'on pourrait appeler la vraie perpétuité, à discrétion d'un collège de psychologues, etc., qui disent à la fin de la peine, bon, ben lui, on ne peut pas le laisser ressortir, donc on va le mettre.
Mais en même temps, il n'est pas en prison.
Et ça se passe à Fresnes, quand
oui,
même.
Oui, mais c'est pas comme la rétention, mais c'est pas l'incarcération.
C'est médical, c'est psychomédical.
Voilà.
Mais on le garde quand même à vie, enfermé,
oui,
dans un truc qui n'est ni prison, ni hôpital voilà, psychiatrique. Est-ce qu'ils ont regretté?
Alors, ma cliente, même la tante, et les parties civiles, je ne veux pas parler en leur nom, mais de toutes les parties civiles, mais en tout état de cause, un, ils ne comprenaient pas l'appel. Déjà pour eux, l'appel, c'était, il y avait eu un jugement, c'était fait, l'idée, et ça, on voit l'évolution de la société.
Rien, oui.
C'est, on voit l'évolution de la société, c'est-à-dire que le droit d'appel est de moins en moins reconnu. Deuxièmement, oui, ils ont été frustrés qu'ils n'aient pas eu la même peine. Très compliqué à expliquer que, en fait, la structure de rétention n'est pas encore appliquée.
Elle n'existe pas en vérité. Il y a personne là-dedans.
En fait, elle n'existe pas. Oui. En fait, elle est inapplicable. Donc, je pense que c'est pour ça. Peut-être aussi parce qu'il a avoué les quatre personnes. Mais je pense que c'est surtout pour le fait que c'était inapplicable.
De
mais,
toute façon, il est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans.
Maximum. Il a eu le maximum.
Voilà, il a eu le maximum. Et il est tout à fait possible qu'il ne sorte pas au bout de 22 ans et qu'il reste détenu 30-35 ans.
Puisque la peine de sûreté est uniquement la peine à partir de laquelle,
c'est
au bout de 22 ans, il pourra demander peut-être une sortie.
Alors la question de la maladie mentale, l'impression qu'on a, après on n'est pas expert, hein, mais les gens, moi je pense qu'ils cherchent à comprendre aussi. Ce type n'est accessible à aucun raisonnement rationnel, il n'est pas vraiment capable de se justifier des meurtres devant la justice, et pourtant des experts psychiatres viennent dire « oui bon, il a un trouble de la personnalité, mais pas plus, donc on va le juger ». Il y a un truc qui est, évidemment vous défendez une famille de victimes, j'attends pas de vous que vous me disiez « il était fou, fallait pas le juger », mais enfin l'avocate que vous êtes est quand même interrogée par
alors,
ça.
Alors je pense qu'il faut, revenir sur... qu'est-ce que la justice et comment fonctionne la justice et qu'est-ce que sont les experts? Je crois que les batailles d'experts ont toujours existé, mais je pense que ils sont très bons, il n'y a pas de mystère. Mais quelque part, je crois qu'ils sont orientés. Je pense que les parties civiles n'auraient pas supporté qu'on dise qu'il n'est pas fou.
Dise
qu'il est fou, pardon.
On l'envoie
et donc il n'est pas accessible à la sanction pénale.
Et pourtant, c'est la réalité.
C'est pas forcément. Il y a une nuance. Moi, je pense que. C'est vraiment là, nous manque Michel Foucault ou des gens qui analyseraient sur la folie. C'est que il est quand même accessible à une réflexion. Il a quand même dit en appel à ma cliente qu'il savait qu'il ne lui pardonnerait jamais. Donc il y a une prise de conscience quelque part de l'acte. Bon, mais en même temps, il y a une fuite, il y a des tocs. Au départ, c'était un enfant. Il a une histoire qui n'a pas été prise par un pédopsychiatre, qui n'a pas du tout été prise en compte, qui n'a pas été traitée, et que dans ces conditions, il est entre la responsabilité et la folie. C'est-à-dire cet élément...
Il est borderline, hein, c'est ce qu'on dit quand on sait pas quoi dire.
Voilà, c'est cette espèce de nuance, et on ne sait pas quoi en faire. C'est aussi que la société ne sait pas quoi en faire. Donc, on dit qu'il est responsable.
Du coup, le procès est assez vain. C'est deux procès qui durent 2 fois 3 semaines.
2 fois 3 semaines.
Donc pendant un mois et demi de l'histoire de la justice française, on a essayé de comprendre quelque chose sans jamais y arriver.
C'est la différence entre la vérité judiciaire et ce que décide la justice et l'humain dans sa folie, dans son concept, dans sa marginalité. Il y a un moment donné, il fallait que la justice passe, c'était obligatoire. Non pas pour, j'aime pas l'expression faire le deuil, mais au moins que les parties civiles se rendent compte que la justice prenait en compte leur histoire, et d'autant plus avec Nathalie David, où on a eu d'abord Courtois, et c'était très compliqué avec des dysfonctionnements, j'insiste pas là-dessus, mais c'était très complexe. Et le fait qu'on essaye d'avoir la vérité par l'aveu, mais la justice, et ce n'est pas son rôle, et dans l'incapacité de traiter de façon psychiatrique et psychanalytique l'individu. Et c'est là où on a une frustration de l'homme, parce qu'on a la justice qui est le raisonnement, qui est cartésienne, et on a la personne qui est complètement, alors j'allais dire, dans la folie, oui, dans la folie de l'acte, et des actes. Et que là, il y a un hiatus, et c'est ce qui fait la frustration.
Alors Michel Courtois maintenant, est-ce que vous-même, puisque vous êtes là au tout début, lorsqu'il est arrivé, vous êtes là au départ, est-ce que vous-même et vos clients croient que Michel Courtois a pu tuer Nathalie David?
Alors au départ, j'en étais persuadée. Pas sur l'aveu, parce que moi, la religion de l'aveu, je ne l'accepte pas.
Le journal intime.
Il y a le journal intime, mais il y a aussi la manière dont il y a... Alors, le fait aussi que Nathalie Davids dise à ses amis chez qui elle avait été manger un gâteau, dise qu'elle avait cassé parce qu'il était insupportable, qu'il l'avait menacé.
Oui.
Les policiers arrivent chez Courtois. Courtois dit... Alors, après, il dira que ça l'a choqué et tout. Mais Courtois dit, je connais pas Nathalie Davids. Il sort avec elle depuis plusieurs années.
Donc, il y a eu des ruptures,
mais enfin, quand même, ils étaient quand même
ensemble. Il a l'air de cacher quelque chose.
Il la connaît pas. Après, il dit, ah, Nat, ah oui, mais il fallait me dire que c'est Nat, mais moi, je suis pas vraiment amie avec elle. Après, on trouve ces fameuses traces de poudre. Il dit que c'est son travail, mais normalement, il a l'aide aux personnes handicapées parce que, normalement, il est interdit de travailler. Donc, c'est quand même très contradictoire. Il dit qu'il est resté là, mais en même temps, on s'apercevra après que, dans les relevés, les fadettes, dans les relevés téléphoniques, qu'il y a eu, à un moment donné, il dit j'ai dormi, j'ai pas répondu, alors il a eu un coup de téléphone.
Il y a mieux que ça.
Enfin, s'il y a un mix.
Moi, je trouve qu'il y a mieux que ça. Il y a la moto, c'est-à-dire que quand on trouve une médaille dans son portefeuille, ils disent c'est la médaille des motards.
Alors, mais sur la moto, il aurait même eu un accident de moto. On ne sait même plus si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, tellement il y a de la mythomanie dans l'histoire.
C'est un mytho.
Et c'est un mytho complet. Et donc, à un moment donné, il dit il a une médaille des motards et qu'il est passionné par la moto. Ils le disent.
Alors qu'en vérité, il n'en a quasiment jamais fait.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
C'est-à-dire que lui-même, qui est une victime dans cette histoire... est presque aussi incapable de se justifier que
Ah ben c'est le coupable idéal qui est innocent. C'est l'affaire, Jean-Denis Bredin a écrit un excellent livre sur le coupable idéal, le coupable, ça s'appelle. Eh bien, c'est exactement ça. Et bien sûr que j'y ai cru. Et d'autant qu'il y a les témoins qui racontent qu'ils n'ont rien à voir avec Palmier. On ne dit pas qu'il est noir, on dit pas... Donc, c'est un ensemble de choses. Sa réaction, l'ex-compagne ou épouse de Courtois dit qu'il l'a menacé avec un revolver. On a un ensemble de faisceaux et d'indices concordants qui peut être le coupable.
Et pourquoi il avoue ? Parce qu'on sait qu'on peut, en fin de garde à vue, ça se passe à 6 heures du matin, là, les aveux, on peut craquer. D'accord. Des tas d'histoires racontent que des gens qui n'avaient rien fait ont avoué des faits qu'ils n'avaient pas commis à 6 heures du matin. Des flics très insistants.
Alors, je peux vous dire que moi, j'ai écouté les 3 heures.
Parce qu'il est, c'est enregistré.
C'est enregistré. Je les ai écoutés. Alors déjà, on sait que l'aveu, ce n'est pas une preuve. Mais là, vous voyez bien que c'est les policiers. Et c'est vrai que c'est la 5e audition, c'est 1h du matin. Et malheureusement, le rôle du conseil n'a pas été... J'ai rien à dire, je suis encore soumise à la déontologie, mais ça n'a pas été très très clair. Enfin bref, donc... Ah oui, si vous lisez.
Vous voulez dire l'avocat qui le défend ?
L'avocat de permanence, elle est là, elle est là, mais elle lui dit bon, bah, avouez, quoi. Bon.
Moi, je peux le dire.
Bon,
je
ne
suis pas soumis à la même
chose
que vous.
Je peux le dire. Et donc, on voit qu'il l'interroge. Il lui donne les réponses. Il répond oui, non. Je peux vous dire que.
Le
vous écoutez
est
ça.
Est une reconstitution.
Voilà, comment ?
Le procès verbal d'aveu est une reconstitution.
Oui, c'est les policiers qui posent les questions.
Et qui font les réponses.
C'est-à-dire qu'il y a. Et moi, je peux comprendre les policiers aussi. Hein. Je ne suis pas sur le fait qu'on l'a forcé. Ils ont un faisceau d'indices.
Il faut que ça colle.
Et le faisceau d'indices fait que ça colle. Alors, ils nous racontent des histoires sur le scotch qu'il met sur la porte, comme il connaît les lieux, bien évidemment. Donc, tout ça se reconstitue. Mais c'est le faisceau d'indices qui fait que les policiers essayent de le faire avouer.
On arrive au bout. Une dernière question. Qu'est-ce qu'il voulait organiser, Palmier, avec son pain de plastique, avec son arbalète, avec toutes ses armes ? Est-ce qu'on a une réponse à ça ? Parce que derrière, on entrevoit un type encore plus dangereux qui était capable de commettre peut-être un attentat avec son pain de plastique.
On s'est posé la question. Lui, son explication, et je pense que c'est aussi une partie de mythomanie, son explication, c'est qu'il avait été tabassé, qu'on le rejetait et qu'il voulait se protéger. Et aussi par rapport à ses escroqueries. Il avait envie de se protéger par rapport à toutes les escroqueries, puisqu'il vivait d'escroqueries. Et je pense que c'est quelqu'un qui est complètement parano et qui croit qu'on va le tabasser, mais qui lui-même est capable de faire des choses. Je vous assure que Photoshop, il l'utilisait très très bien. Mais je pense qu'il dit ça, c'est pour se protéger.
Merci beaucoup, maître Auerbacher, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire, qui était d'ailleurs une des dernières affaires de votre carrière.
Ben oui. Je ne suis qu'avocate honoraire actuellement.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.